écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Un nouveau journal d'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Marion, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Est de la République démocratique du Congo. Après la condamnation de 25 soldats, mercredi à la peine de mort, un deuxième procès a débuté hier pour une vingtaine de militaires accusés également de fuite devant l'ennemi. Un porte-parole militaire de la province du Nord Kivu assure qu'ils serviront d'exemple, alors qu'au sein de la société civile congolaise, en revanche, on estime que ce n'est pas forcément la solution adaptée. Dans ce journal également, le Cameroun, avec la coalition d'opposition ATP, elle précise ce qu'elle entend par transition pacifique en cas de victoire à la présidentielle l'an prochain. Nous serons aussi à Goza, au nord-est du Nigeria, après 3 attentats suicides le week-end dernier. Le programme alimentaire mondial de l'ONU dit craindre de nouveaux déplacements de population. Et puis reportage à Madagascar où la dernière épreuve du brevet a été perturbée hier par des soupçons de fuite des sujets sur les réseaux sociaux. Les combats se poursuivent donc, mais les procès aussi au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Affrontement toujours entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23 soutenus eux par le Rwanda. Et les procès, ce sont ceux de militaires accusés d'avoir fui ces combats. Avant-hier, 25 soldats congolais ont été condamnés à la peine de mort. Et hier a débuté un autre procès pour une vingtaine de militaires. Procès qui devrait s'achever aujourd'hui. Et si un porte-parole militaire du Nord Kivu estime que la sévérité des juges va servir d'exemple et décourager les fuyards, la société civile congolaise fait-elle un constat différent? Écoutez par exemple Stuart Muindo du mouvement citoyen Lucha.
On espère en fait que ces condamnations à mort ne seront pas exécutées parce que on sait tous avec quelle rapidité le procès a été organisé et ce que ça représente en tant que garantie de bonne justice pour les condamnés. Mais surtout, on craint que lorsqu'on est une armée qui n'a pas suffisamment de matériel, qui n'est pas suffisamment mieux commandée, qu'on met la pression sur les militaires pour qu'ils se battent sur le terrain. C'est important de leur donner les moyens militaires et tous les soutiens nécessaires. Si vous êtes abandonné à vous-même et que vous ne pouvez pas faire le poids face à une rébellion bien armée et que de l'autre côté, vous savez que si vous fouillez, vous serez condamné à mort dans un procès expéditif où vos droits ne sont pas garantis, il y a un sérieux risque de désertion et même d'adhésion à l'ennemi. Donc c'est pourquoi c'est toujours important de s'assurer que les militaires ont les moyens de mener la guerre et veiller à ce qu'évidemment le procès qui leur sont fait lorsque certains d'entre eux s'enfuient, au moins que leurs droits les plus élémentaires sont respectés.
Stuart Muindo du mouvement citoyen congolais Lucha, joint par Alexandra Branjon. La RDC également, avec la réaction du FRIVAO. On vous en parlait hier. Le FRIVAO, c'est l'organisme public chargé de verser des indemnisations auxquelles l'Ouganda a été condamné pour la guerre dite des six jours autour de Kisangani, notamment dans les années 2000. Le FRIVAO donc qui a commencé ses premiers versements et des critiques se sont fait entendre à propos de l'identification des victimes et donc des personnes suicidaires d'être indemnisé. Deba Lolia, le porte-parole du FRIVAO, insiste ce matin sur le fait, un, que l'identification des victimes n'est pas encore terminée, et deux, que les critères d'éligibilité ont été établis lors d'événements publics et sur la base de plusieurs rapports de la société civile et de l'État congolais.
FRIVAO a eu, après son installation à Kisangani, a organisé un atelier. C'est dans cet atelier-là qu'on avait établi un critérium pour qu'on reconnaisse quelqu'un comme victime de guerre de six jours. La commission a eu à faire un tabloïd pour comprendre les endroits rouges de la guerre. Quand quelqu'un, par exemple, se retrouve dans ces endroits-là, c'est parmi les critères, parce qu'il y a des zones qui étaient hors la guerre. Et FRIVAO s'est basé, pour quant à ça, au rapport des associations des droits de l'homme qui existaient. Il y a les rapports de services de renseignement, il y a les rapports du gouvernorat, et il y a les rapports de la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui ramassait les blessés, qui ramassait les morts. FRIVAO va se déployer dans d'autres provinces, l'Ituri, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé. Même à la Tchopo, on n'a pas encore fini.
Débat Lolia, le porte-parole du FRIVAO au micro à Kisangani de Joseph Kaongo. Et je vous rappelle que d'après les Nations Unies, ce sont plus de 700 civils qui avaient été tués et plus de 400 habitations détruites début juin 2000, donc lors d'affrontements au nord de Kisangani entre les armées de l'Ouganda et celles du Rwanda. Le Rwanda, à l'heure actuelle, c'est un pays en campagne avant la présidentielle et les législatives prévues dans 10 jours maintenant, avec un président Paul Kagame qui brigue un quatrième mandat consécutif, lui qui est au pouvoir depuis les années 1990 et qui est réélu à chaque fois avec plus de 90% des voix. Hier, dans un discours prononcé également à l'occasion de la fête nationale et de la fin de la période de 100 jours de commémoration des 30 ans après le génocide des Tutsis, Paul Kagame s'est défendu face à ceux qui dénoncent des atteintes aux droits de l'homme de la part des autorités de Kigali.
A few people outside still do not...
Certains à l'étranger ne comprennent toujours pas les Rwandais. Certains d'entre eux essaient même de nuire à ce que nous construisons et nous le voyons. Mais tous ces efforts négatifs n'ont aucun résultat. Ce ne sont que des mots sur Internet ou des déclarations, quelque part, qui viennent de bureaux haut placés, mais qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Les valeurs que les Rwandais ont acquises font maintenant partie de nous et il n'y a personne et rien d'assez fort pour nous les enlever.
To take that away from us.
Paul Kagame, le président rwandais, des propos recueillis par Lucie Mouillot. RFI, 6h36 à Yaoundé. Qu'entendent-ils précisément par transition pacifique au Cameroun? C'est le temps des grandes manœuvres en vue des élections prévues en 2025. Législatives et municipales d'abord au mois de février et surtout la présidentielle prévue en octobre. La transition pacifique donc, c'est ce que souhaite mettre en place, si l'un d'entre eux est élu président, les opposants Olivier Bilé, Célestin Djamen et Cabral Libi. C'est même dans le nom de leur alliance ATP, Alliance pour une transition pacifique, qui est dans les tuyaux depuis le début de l'année. Et les trois hommes viennent d'apporter des précisions sur ce qu'ils prévoient et sur leur timing. Amélie Tulé.
Cette transition sera une période d'exception, déclarent les signataires. Une halte historique pour un nouveau départ. Pas une simple alternance résultant d'un changement de personne à la tête de l'État, mais une refondation des textes fondamentaux pour passer, je cite, d'une dictature néocoloniale hyper centralisée et corrompue à un État souverain et démocratique dans lequel de larges pouvoirs sont dévolus aux collectivités locales. Dans l'hypothèse d'une victoire, une fois le candidat soutenu par l'ATP élu à la présidentielle, s'engagerait alors en théorie, une transition de 4 ans, convocation d'états généraux, gouvernement d'union nationale, jusqu'à un référendum et des élections générales, dont une présidentielle à 2 tours. Ce que le manifeste ne dit pas, c'est qui pour défendre les couleurs de l'ATP en 2025. L'ATP qui n'est pas le seul projet d'alliance au sein de l'opposition camerounaise dans l'optique des échéances de l'an prochain. Le candidat déclaré deuxième à la dernière présidentielle, Maurice Kamto, et le député Jean-Michel Ninche portent ainsi le projet APC, Alliance politique pour le changement. ATP-APC, deux mouvements déjà qualifiés en mars de clandestins par le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangadji.
Amélie Tulé, direction maintenant le Nigeria, une semaine après le week-end sanglant de Goza, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. Cette ville a subi 3 attentats, avec un bilan évalué à 32 morts et une centaine de blessés. Goza, qui ces dernières années avait retrouvé une certaine normalité, après avoir été la capitale autoproclamée des djihadistes de Boko Haram au milieu des années 2010. Aujourd'hui, comme dans de nombreuses localités du nord-est du Nigeria, le programme alimentaire mondial de l'ONU, WFP, en anglais, est présent et apporte une assistance alimentaire, notamment aux habitants. Mais les attentats du week-end dernier font craindre de nouveaux déplacements de population. Moïse Gomis.
À Goza, le couvre-feu imposé par l'armée nigériane est levé depuis mardi dernier. Pourtant, Chilaël, la porte-parole de WFP, craint les effets de ce triple attentat sur les habitants.
Une chose aussi simple qu'aller au marché devient une question de vie ou de mort, parce qu'ils ne savent pas que s'ils vont au marché ou à un mariage, comme le cas de samedi nous l'a montré, ils peuvent très bien être une cible, ils peuvent très bien perdre leur vie.
Longtemps occupé par le groupe armé Boko Haram, Goza a vu depuis le retour de dizaines de milliers de déplacés, en majorité des agriculteurs. À cause de l'attentat de ce week-end, beaucoup de personnes n'osent plus aller cultiver leurs champs, comme l'observe déjà Chilaël.
Le nord est censé être la zone agricole du Nigeria. La production alimentaire de cette zone est nécessaire pour nourrir l'ensemble du pays. Donc si on ne pratique plus l'agriculture dans le nord du Nigeria, nous aurons des millions de personnes qui souffriront de la faim.
Et selon WFP, cette année, la crise alimentaire pourrait concerner 32 millions de Nigériennes et Nigérians, conséquence de l'insécurité dans le nord-est, mais surtout le nord-ouest du pays. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Un voisin du Nigeria, le Niger, continue de reprendre en main son secteur énergétique. On apprend que les militaires au pouvoir à Niamey ont suspendu le permis d'exploitation d'uranium accordé à Goviex, groupe canadien, à qui il est reproché d'avoir trop tardé à lancer ses opérations. Il y a deux semaines, c'est le français Orano qui subissait le même sort pour son site situé près d'Arlit. Le Niger, par ailleurs, qui accueillera demain le premier sommet officiel de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso. Un sommet à la veille de celui de la CEDEAO. La communauté ouest-africaine quittée au début de l'année par ces trois pays après des sanctions suite au coup d'État qui ont porté les autorités actuelles au pouvoir à Niamey, Bamako et Ouagadougou. Enfin, c'est la fin de l'année scolaire un peu partout sur le continent. Et avant les vacances, il y a les épreuves, le baccalauréat pour clore le secondaire. On parle aussi d'examen en RDC et le brevet, examen d'État en RDC, pardon, et le brevet pour les plus jeunes. Par exemple, à Madagascar, hier, quatrième et dernier jour d'épreuve, perturbé par une suspicion de fuite du sujet d'anglais sur le réseau social Facebook. La veille, le ministère de l'Éducation nationale avait mis en garde tous ceux qui seraient tentés de troubler le bon déroulement du brevet, alors que ces dernières années, les fraudes lors d'examens officiels se sont répétées. Et à Antananarive, au lycée d'Amphéliou, ce n'est qu'à moitié que les élèves et parents ont savouré le sentiment de libération, normalement, au sortir de la dernière épreuve.
La confusion règne devant le portail de ce centre d'examen où une foule de parents et d'élèves s'agglutine ce matin.
Je suis en colère parce que tous mes camarades ont fui le fuite de sujet.
Même avec un sujet de secours fait pour mettre les élèves sur un même pied d'égalité, Jessica ne peut contenir son agacement face aux pratiques de fraude.
Comment dire, moi j'ai étudié mais eux n'ont pas et c'est de la triche.
Assina guette avec inquiétude l'arrivée de son fils au loin. Elle craint que le diplôme du brevet finisse par perdre sa valeur au fil de ces scandales réguliers.
Mon fils aîné a passé le bac l'année dernière, mais il doit le repasser cette année car lui aussi avait été perturbé par des problèmes de fuite de sujet. Alors ça nous inquiète que ce scénario se répète avec le brevet de mon autre fils.
Des événements que la société civile attribue à des failles logistiques dans l'organisation de ces examens officiels. Michel Andjamia Zanerine, responsable du plaidoyer au sein du Mouvement National pour l'Éducation pour tous.
Nous apercevons qu'il y a des sujets utilisés lors de l'examen qu'on va acheminer par le taxi brousse, les transports publics. Et moi, je trouve que c'est très risqué. Et c'est quand même un sujet officiel. Et c'est quand même une source de fuite.
Face à ces perturbations, la police et la gendarmerie ont été saisies. Des suspects ont par ailleurs été arrêtés, assure à RFI, une source au sein du ministère de l'Éducation nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
À Madagascar, où il est maintenant 8h43, une heure de moins ici à Paris. Et vous êtes avec Marion Kazanov pour la suite d'RFI Matin.